l'aurez compris, j'aime bien les films et j'aimerais commencer par mentionner un film que j'ai vu il y a quelques années maintenant, mais qui s'appelle Million Dollar Baby et un film de Clint Eastwood. Ce que j'aime bien dans certains films, c'est qu'il y a une trame bien ficelée avec des thématiques intéressantes. Et je trouve que la thématique de ce film, alors c'est vrai qu'elle apporte certaines thématiques qui sont assez lourdes et je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est communiqué dans ce film, mais il y a quelque chose d'intéressant. C'est l'histoire d'un entraîneur de boxe, Clint Eastwood, qui joue ce rôle et qui voit venir une femme dans son club et qui veut se faire entraîner par lui. Dans un premier temps, il refuse, mais elle est tellement obstinée qu'il finit par accepter. Et il y a cette relation qui se construit entre les deux comme un père et une fille. Mais dans le même temps, une des thématiques, il me semble, du film, c'est que ce Clint Eastwood, cet entraîneur, il est à la recherche d'un regard approbateur. Ça se voit en tout cas dans deux relations. En fait, on découvre au travers du film qu'il a une fille à lui, mais il n'est pas en relation avec elle. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne la voit jamais. Mais on voit constamment des courriers qu'il lui envoie, et chaque jour, ces courriers lui reviennent. Et il est très attristé, affecté par cela, au point de se rendre régulièrement auprès d'un prêtre. Et on voit qu'il y a une confession qui se fait régulièrement. Est-ce que c'est à cause d'un tort qu'il a commis vis-à-vis d'elle, ou tout simplement un désir que Dieu intervienne? Difficile de dire. Mais en tout cas, il est à la recherche de ce regard approbateur de sa fille et d'une certaine manière de Dieu aussi. Même chose avec l'entraîneur, ou plutôt celui qui l'a entraîné, Morgan Freeman, qui est le concierge dans le club. Et à un moment donné, ce concierge explique comment, à chaque fois qu'il se regarde, il y a comme cette honte qui envahit cet entraîneur pour quelque chose qu'il a commis dans le passé. Je vous suggère que ce regard, cette recherche d'un regard d'approbation, on le cherche tous à un moment ou à un autre. Ça peut être auprès de personnes qu'on estime beaucoup et avec lesquelles il y a une tension. Ça peut être avec Dieu, cette recherche d'un regard approbateur avec lui. Et la question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir cette assurance d'un regard d'approbation sur notre vie? Sur quoi est-ce qu'on va se baser? Qu'est-ce qui va nous permettre, si quelque chose s'est passé dans la relation, d'avoir cette relation restaurée? On va lire donc le passage de ce soir. Il s'agit de l'évangile de Luc. À la page 1013 dans les Bibles que vous avez devant vous, au chapitre 10. Les versets 25 jusqu'à 37. Luc 10, versets 25 à 37. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, donc Jésus, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Il répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, Et qui est mon prochain? Jésus reprit, Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains des bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ? Il répondit, c'est celui qui a montré de la compassion envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Luc nous présente ce récit dans le contexte du voyage de Jésus vers Jérusalem. Nous sommes en Palestine au 1er siècle. Il s'agit d'une conversation entre un professeur de la loi, quelqu'un qui connaissait très bien la loi de Moïse, et Jésus. Et je vous suggère de voir dans cet échange 4 jalons avec une question au verset 25, une limitation au verset 26 à 29, une réponse verset 30 à 36 et une extension au verset 37. À la question, Jésus va apporter une réponse. Et à la limitation, Jésus va apporter une extension. Mais l'ordre dans lequel ces éléments sont placés ont de l'importance. Tout commence avec une question, la question de ce spécialiste de la loi au verset 25. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Comment est-ce qu'on pourrait le dire autrement? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour être accepté par Dieu? Approuvé par lui? Qu'est-ce que je dois faire pour être approuvé par Dieu? Qu'est-ce qui va faire que Dieu va jeter un regard favorable sur ma vie et me permettre de vivre éternellement avec lui? Sachant qu'il a affaire à un spécialiste de la loi, Jésus lui demande de résumer la loi. Ça se faisait assez souvent à l'époque. Et il le fait par 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Aime Dieu, aime ton prochain. Et comment est-ce que Jésus réagit à sa réponse? Au verset 28, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Tu as bien répondu. Dans un sens, c'est vrai, n'est-ce pas? Si quelqu'un aime Dieu, aime son prochain, les deux de manière parfaite, eh bien, il ne peut être qu'approuvé par Dieu. Mais Jésus lui dit aussi, fais cela et tu vivras. C'est étrange quand on réfléchit à d'autres entretiens que Jésus a eus avec des spécialistes de la loi. Par exemple, si on pense à la discussion qu'il a eue avec Nicodème. Nicodème était lui aussi un spécialiste de la loi, on voit dans Jean 3. Et quand il vient vers Jésus avec cette même question de la vie éternelle, ça ne se passe pas comme ça. Si vous vous souvenez de cet entretien, Jésus ne va pas lui dire « fais cela et tu vivras ». Ce que Jésus n'arrête pas de marteler avec Nicodème, c'est que sans la nouvelle naissance, sans l'intervention de l'Esprit dans sa vie, sans la foi dans le Fils de Dieu, il est impossible d'entrer dans le royaume, impossible d'avoir cette vie éternelle. Il le coupe dans son élan, dans cette conversation avec Nicodème, tout de suite pour lui dire que ça ne se fera pas en obéissant à la loi, lui qui est pourtant un spécialiste de la loi. Alors comment comprendre que Jésus répond ici « Fais cela et tu vivras ». Pourquoi est-ce qu'il y a ces 2 conversations différentes? Il y a peut-être un élément qui peut nous aider au verset 25. Dès le départ, on découvre que ce spécialiste de la loi, il vient faire quoi? Il vient mettre à l'épreuve Jésus. C'est pour mettre à l'épreuve Jésus. Et il se positionne un peu dans la place de celui qui sait pertinemment comment avoir la vie éternelle. Et il sait que Jésus a un autre message annoncé, et il veut le piéger, en quelque sorte, le mettre en porte-à-faux. Pour lui, il est certain que c'est justement par l'obéissance à la loi qu'il va obtenir cette vie éternelle. Mais Jésus ne tombe pas dans le panneau, et au lieu de lui donner la réponse qui serait en contradiction avec ce qu'il croit, il lui dit, ok, vas-y, fais-le, fais cela et tu vivras. Et dans un sens théorique, Jésus il a raison, si quelqu'un arrivait à vivre parfaitement, en aimant Dieu, en aimant son prochain, il aurait la vie éternelle. Mais quel est le problème? on en arrive à la limitation. Cet homme, il est surpris, et au verset 29, on lit, « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain ?» Lui, voulant se justifier, il est obligé de se justifier alors qu'il se pense être quelqu'un d'assez remarquable, quelqu'un qui peut prendre le dessus sur Jésus. Il se sent obligé de se justifier. T'es sûr de lui pourtant au départ, non? Une vie irréprochable pour être approuvée par Dieu. Pourquoi est-ce qu'il doit se justifier? Et si c'était parce que face aux exigences de la loi, quand on est réaliste, on découvre que c'est difficile de placer la limite de ce qu'on peut faire. Jusqu'où est-ce que je dois aimer? À quoi est-ce que ça ressemble de se justifier? Ben, on peut penser à nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe quand tout à coup, avec des amis ou des collègues, on a une réaction forte, une colère, on se met en colère vis-à-vis de quelqu'un, on fait preuve d'amertume dans le langage, et que par la suite, quelqu'un vient nous dire « Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi est-ce que tu étais en colère ?» Et là, on répond, mais t'as vu ce qu'il m'a fait? T'as vu ce qu'il m'a dit? Je savais qu'il avait des problèmes, mais là quand même. Et la tendance qu'on a, c'est de vouloir charger l'autre, de dire, mais finalement, il a eu un comportement odieux qui justifie que j'ai agi de cette façon. Ou alors, on pourrait se justifier en disant, mais écoute, tu te rends pas compte de tout ce que j'ai à porter ces jours-ci, tu te rends pas compte de la charge de travail que j'ai, et aussi toute la pression qu'on a exercée sur moi. Et ça, c'est tout simplement la chose qui a fait exploser la cocotte. Je ne pouvais plus. Et on se dit finalement, les circonstances, c'est ça qui justifie le fait qu'on ait réagi de cette façon. Il y a différentes façons de se justifier. Pour lui, pour ce spécialiste de la loi, c'est de poser la question, mais jusqu'où alors? Jusqu'où? Jusqu'à quel point? Face aux exigences de la loi, face à notre devoir d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain et notre incapacité finalement à le vivre, on éprouve le besoin de se justifier. Mais toutes ces auto-justifications, toutes ces tentatives finalement disent notre limitation à pouvoir le vivre. On arrive maintenant à la véritable réponse que Jésus veut donner. Une question, une limitation, une réponse. Et ça peut sembler étrange, mais Jésus répond par une histoire. L'histoire d'un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Et déjà le tracé, si vous étiez en train de l'écouter, vous dirait que ça sent le roussi. C'est le mauvais chemin à emprunter, c'est le chemin risqué, avec des rochers, des cavités, l'endroit idéal pour une embuscade, vous seriez isolé sur la route. Et ça ne manque pas. Un juif qui prend cette route est attaqué par des brigands et après l'avoir roué de coups, il le laisse là, demi-mort, sur le bord du chemin. Heureusement, il y a un prêtre qui descend. Et là, alors qu'on écoute l'histoire de Jésus, on se dit, ah, voilà quelqu'un de remarquable, quelqu'un qui est consacré à Dieu et qui va, dans cette vie de piété, prendre soin de cette victime. Mais il ne le fait pas. Il passe à côté. Mais alors, il y a une autre chance, celle d'un lévite. Quelqu'un qui, lui, est consacré à prendre soin du temple. Et lui, c'est quelqu'un de bien. C'est forcément quelqu'un qui va prendre soin de cet homme à demi-mort. Mais lui aussi passe à côté. Lui aussi ne s'arrête pas. Et là, le choc, c'est d'entendre le prochain qui va passer, un samaritain. Pour un auditeur, on se demande même pourquoi Jésus utilise un samaritain dans son histoire. C'est choquant. Ceux qui étaient considérés comme la pire race, un mélange, un syncrétisme, toutes sortes de souvenirs viennent à l'esprit des auditeurs juifs. Ils ne devraient même pas le mentionner. Et pourtant, si. Lui vient à passer aussi. Surprise encore plus grande, c'est lui qui s'arrête, c'est lui qui prend soin du blessé, C'est lui qui le soigne avec du vin et de l'huile. Et parce qu'il a besoin d'être soigné davantage, il le prend sur sa monture, l'emmène à une auberge. Il se dépense pour cet homme. Il donne de l'argent en abondance pour que, à l'auberge, on prenne soin de lui. Prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Grande générosité, alors qu'il ne sait même pas quelle va être l'addition finale. C'est bien le Samaritain, le héros. Alors que vous avez écouté cette histoire, qui est qui? Dans la peau de qui est-ce que ce spécialiste de la loi doit se mettre? Ici, je pense que naturellement, on aura envie de se mettre dans la peau de qui? Du Samaritain. On a envie de se dire, je suis ce Samaritain qui vient en aide à celui qui est blessé. En Suisse, on a même le cours du Samaritain. Si on veut passer le permis de conduire, il faut passer le cours du Samaritain. Autrement dit, on est tous appelés à être Samaritains et à prendre soin des autres. Vous avez peut-être pas ça en France. J'en suis navré. Non, mais vous avez certainement le secourisme ou autre. Mais naturellement, on a envie de se dire, c'est moi le Samaritain. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment la leçon principale de l'histoire? Dans un sens, c'est vrai, et on va le voir à la fin, il y a bel et bien cette invitation à l'imitation et à prendre soin des plus démunis, même nos ennemis. Jésus va y venir, c'est vrai. Mais il y a plusieurs commentateurs qui mettent en évidence des éléments qui doivent nous faire réfléchir. Le premier est mentionné par exemple par Amar Djabala. Est-ce qu'un auditeur juif qui écoute cette histoire se mettrait naturellement dans la peau du Samaritain? C'est pas si certain. Et en fait, quand on réfléchit, il n'a pas bien distribué les cartes s'il fait ça. Pourquoi est-ce qu'il met un Samaritain qui vient au secours d'un Juif? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis un Juif qui passe et qui voit un Samaritain à demi-mort? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas distribué les rôles différemment en disant, toi le juif, tu es comme ce juif qui descend et qui, à la différence d'un prêtre ou d'un lévite, va s'arrêter. Mais celui qui a demi-mort, c'est un juif. Et celui qui vient à son secours est un samaritain. Ça, c'est le premier élément qui doit nous faire réfléchir. Deuxième élément, c'est le changement de question. On se souvient de la question de départ, c'est qui est mon prochain? Jésus conclut cette histoire au verset 38 en disant « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ?» La question a été changée. Il se demandait qui était mon prochain. Et Jésus conclut en disant « Mais lequel a été le prochain de cet homme à demi-mort ?» On se souvient que cet homme, ce spécialiste de la loi, a dû se justifier. Jésus l'a placé devant ses limites. Et si cet homme, ce spécialiste de la loi, allait plus mal qu'il ne le pensait? Et si cet homme qui parle à Jésus, il était incapable de se sauver lui-même? Et si cet homme qui parle à Jésus devait se mettre dans la peau de ce juif à demi-mort, incapable de se relever? Alors, si on est honnête, personne n'a envie de se mettre dans la peau du juif à demi-mort sur le bord du chemin. Naturellement, on se placera dans la peau du héros. Mais est-ce que ce n'est pas justement à cela que Jésus nous invite? Est-ce que nous sommes vraiment en mesure de nous sauver nous-mêmes? Est-ce qu'on est vraiment en mesure de pouvoir dire « Oui, j'aime Dieu, j'aime parfaitement Dieu, j'aime parfaitement mon prochain » et j'y vois aucun problème? Est-ce qu'on est vraiment capable d'être approuvé par Dieu, de vivre éternellement par nos propres ressources? Et si nous aussi, on devait se mettre dans la peau de cet homme à demi-mort, au bord du chemin, dépossédé de toute ressource, incapable de nous relever? Il y en a peut-être qui se disent, en entendant cela, mais attends, je suis quand même pas là. Demi-mort, Attends, mais je fais des bonnes choses. Je fais quand même pas mal de choses en faveur des autres. Et si on allait plus mal qu'on ne pense? C'est vrai, il y a des bonnes œuvres qu'on pratique, des choses belles que l'on fait. Mais si on allait plus mal qu'on ne pense? Si on pensait par exemple aux deux choses qui sont chez cet homme, ce spécialiste de la loi qui sous bien des aspects était remarquable, certainement. Si on pensait à la prétention et l'auto-justification, est-ce que ça, c'est pas aveuglant? Est-ce que c'est pas destructeur dans notre relation à Dieu, mais aussi dans notre relation au prochain? Est-ce qu'on voit vraiment clairement quand on pense être quelqu'un de juste, quelqu'un qui peut vivre selon les exigences de la loi de Dieu? Quand on s'approche des autres avec condescendance, comme lui s'approche pour piéger Jésus, est-ce qu'on est vraiment bien, saint? Est-ce qu'on est saint quand on essaie de se justifier soi-même? C'est aveuglant. On n'y voit pas clair déjà. Mais c'est aussi destructeur. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus destructeur dans nos relations que l'arrogance, la prétention? Pensez aux personnes qui vous attirent ou aux personnes qui vous repoussent. Est-ce que dans celles qui vous repoussent, il n'y a pas cette attitude d'arrogance, de condescendance, omnubilée par ce qu'ils présentent d'eux-mêmes, ce que je présente de moi-même, ce désir d'approbation qui est en moi? Est-ce que ce n'est pas repoussant? Si on veut s'en défendre dans un premier temps, si on est honnête, on devrait réaliser qu'on va plus mal qu'on ne pense. Et Jésus désire nous offrir ce regard lucide sur nous-mêmes. Il n'est pas en train de dire, c'est toi qui as raison au fond de toi-même, c'est toi qui es capable de savoir ce qui est vraiment juste. Non, il nous montre qu'il y a une erreur sur le diagnostic. Et une fois qu'on l'a réalisé, comment est-ce qu'on va être relevé? Qu'est-ce qui va nous garantir ce regard d'approbation sur notre vie? Un véritable regard d'approbation. Est-ce que Jésus veut simplement nous laisser macérer dans une vision de nous-mêmes qui est misérable? Vous êtes misérable et vous n'arrivez pas à vivre de manière juste. Est-ce qu'il veut simplement nous laisser là? Et si on reconnaît, si on reconnaissait qu'il y aura bel et bien l'approbation, il y aura bel et bien un regard plein de compassion. C'est vrai, ça ne se trouvera pas chez ce prêtre, ça ne se trouvera pas chez ce lévite, ça se trouvera chez la personne la plus inattendue, celui qu'on n'attendait pas, celui dont on pensait pouvoir se passer, celui qu'on considère même, d'une certaine manière, comme un ennemi. Le prix que le Samaritain est prêt à payer, ça nous dit déjà combien il est plein de compassion, plein d'amour pour nous. En décembre 2008, il y a un homme avec une histoire très particulière qui est décédé. Cet homme s'appelait Jan Grzebski. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Les Polonais dans la salle me diront. Mais en 1988, alors qu'il avait une tumeur au cerveau, on a sa photo avec sa femme. En 1988, alors qu'il avait une tumeur au cerveau, il est entré dans un coma. Et à l'époque, les médecins ne donnaient pas cher de sa peau. On ne lui donnait pas longtemps à vivre, en fait, en 2 ans au maximum. Sa femme a pourtant décidé de prendre soin de lui, de le ramener à la maison, de prendre soin de lui. Et elle a pris soin de lui pendant combien de temps, d'après vous? Pendant 19 ans. 19 ans, elle l'a soigné tous les jours. Alors qu'il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas parler, dans le coma. C'est qu'en 2007 qu'il a commencé à émerger. Les médias ont découvert son histoire et lui ont demandé, ont tenté de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et en toute simplicité, il a reconnu que c'était tout simplement parce que sa femme a pris soin de lui. pendant 19 ans. Elle a toujours prié pour lui. Elle l'a reconnu dans les entretiens. Et elle a pris soin de lui. Maintenant, si on retourne en 1988, avec ce diagnostic, quelle était la valeur de cette personne? Alors que les médecins lui donnaient 2 ans à vivre au maximum, quelle était la valeur de cet homme alors qu'il ne pouvait pas parler? Quelle était la valeur de cet homme alors qu'il ne pouvait pas bouger? Mais sa femme l'a soigné pendant 19 ans. Et pendant 19 ans, elle a renoncé à son autonomie pour prendre soin de son mari, lui permettre d'être rétabli. N'est-ce pas dans le prix qu'elle a payé qu'on voit la valeur? Elle était prête à payer ce prix fort pour permettre à son mari de se relever. Alors que Jésus avance vers Jérusalem, il sait très bien ce qu'il attend. Il sait très bien que ce qu'il va rencontrer là-bas va lui coûter cher. Il est en route vers Jérusalem, l'endroit où il va mourir à la croix. Celui qu'on n'attendait pas, celui que beaucoup rejettent, un peu comme un samaritain, c'est celui qui va accepter de renoncer à son autonomie. Il va mourir crucifié à une croix, alors qu'il était parfaitement libre. Comme on l'a entendu plus tôt, il était Dieu, dans la gloire et la glorieuse présence de son Père. Et pour nous sortir de cet aveuglement, pour nous sortir de cette autodestruction, il renonce, lui, à son autonomie, cloué à la croix, il encaisse les conséquences, il prend sur lui nos maladies et tout ce qui est lié, tout ce qui découle de nos auto-justifications, toutes les menaces, toutes les séparations, les relations brisées, il les encaisse sur lui. Il renonce à sa liberté pour nous rendre libres. Il accepte de s'abaisser pour nous permettre d'être relevés. Et si c'était dans ce prix-là qu'il a été prêt à payer, qu'on voyait le prix que Dieu désire donner à notre vie, si c'était dans son regard à lui qu'on voyait le regard d'approbation qui nous permet d'être en sécurité, d'avoir une stabilité, la certitude de la vie éternelle. Ce n'est pas essentiellement dans nos ressources, dans nos capacités, et même pas du tout, dans notre statut social, dans nos performances, notre tissu relationnel, c'est pas là qu'on va trouver notre valeur, mais dans le prix qu'il a payé pour nous relever. Il a accepté de renoncer à sa liberté pour nous permettre d'être libres, de s'abaisser pour nous relever. Et Jésus conclut cet échange avec l'extension: va agir de la même manière, toi aussi. Si j'ai compris, si j'ai bien compris ce qu'il a fait pour moi, si j'ai bien compris que lui a été prêt à renoncer à son autonomie pour me permettre d'être rétabli, s'il a eu ce regard d'approbation, d'amour sur ma vie, alors moi je peux être libre pour aimer sans avoir peur d'être rejeté. Je peux être libre d'aller plus loin que les limites que j'aurais tendance à placer. C'est vrai, on est limité. Et même Jésus, dans son humanité, était limité dans le nombre de personnes qu'il pouvait soigner en même temps. Mais il nous invite à sa suite à aller plus loin, à aimer même nos ennemis, même ceux qu'on aurait tendance à regarder de haut, ceux qu'on aurait tendance à rejeter, ceux qu'on aurait tendance à haïr, parce qu'on se sait aimer par lui. On n'aura pas peur d'être rejeté. Parce qu'on se sait aimé par lui, on n'aura pas peur de donner sans recevoir en retour. Parce qu'on se sait aimé par lui, on n'aura pas peur de payer le prix fort. Je vous invite à prier. Merci notre Père de vouloir nous aider à voir ce regard lucide sur nous-mêmes, et tu vois qu'on en est loin, j'en suis loin. Je vis régulièrement mes journées en pensant que je ne vais pas si mal que ça, et que ces auto-justifications, elles sont normales, que cette arrogance, elle est normale. On te prie, Père, que tu nous accordes d'être lucides sur nous-mêmes, de reconnaître nos limitations, pour ensuite redécouvrir encore et encore combien tu nous as aimés, combien Jésus s'est abaissé et a pris des risques, risqué sa vie, donné sa vie pour nous permettre d'être établis. Que son amour nous fortifie, nous relève, nous stabilise et nous donne à notre tour envie d'aimer. D'aimer plus loin qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et on te prie de nous aider, Père, dans toutes les limites qu'on a tendance à placer, à aller plus loin, à étendre notre amour plus loin, comme toi tu as aimé tes ennemis, comme toi tu nous as aimés. Nous te le prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.